Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Même. La rencontre du rocher du Trisac.
Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute.
Une dualité qui rassemble les idées.
Ben non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là.
Non.
Prends soin de toi, là.
Oui, hein, tu me protèges. Je le sais.
Compte toi-même.
La rencontre du rocher du Trisac.
Écoute, Benoît, quand ouais. Je parle.
Sophie, bonjour.
Bonjour Benoît, je suis tellement contente du titre que j'ai donné à ma chronique d'aujourd'hui. Même les woke trouvent que les woke sont trop woke.
C'est woke.
C'est rendu que la révolution est en train de manger ses enfants. Écoute, tu connais NPR. NPR, c'est ouais. National Public Radio. C'est la radio publique financée par ses propres auditeurs aux États-Unis. Ça existe depuis des années et NPR, c'est toujours l'exemple de... c'est pas d'extrême gauche, c'est la gauche, mais là, il y a un gars qui vient de quitter NPR après 25 ans de bons et loyaux services. Et il a écrit dans un site que j'adore, Free Press, de Barry Weiss, il a écrit une longue lettre dans laquelle il dit... Je ne reconnais plus NPR. NPR qui était, oui, de gauche, est maintenant rendu trop à gauche et rendu d'extrême gauche. Et surtout, le journalisme qu'on y fait ne laisse aucune place à la liberté, à la diversité d'opinion. Et en plus, les gens sont tellement aveuglés par l'idéologie woke qu'ils ne font pas du reportage objectif. Ils font des reportages en fonction de leur idéologie. Mm-hmm. Et ces directives-là viennent de même très haut, de la haute direction. Alors, l'exemple qu'il donne, il donne l'exemple, par exemple, de George Floyd. Quand George Floyd a été assassiné aux États-Unis, c'était l'occasion pour la société américaine de se poser la question, est-ce qu'il y a du racisme systémique aux États-Unis? Il dit, une façon de découvrir ça, c'est de faire appel au journalisme, journaliste d'enquête, faire des recherches aux États-Unis. Il dit non. Ça n'a pas été ça l'attitude de NPR. L'attitude de NPR, ça a été de dire le racisme systémique existe. On n'a pas besoin de chercher à faire des recherches journalistiques.
On l'affirme.
C'est une donnée. Il appelle ça « it's a given ». Okay. C'est une donnée. C'est la prémisse. Et le rôle de NPR, à partir de ce moment-là, devient de s'auto-flageller et de dénoncer le privilège blanc, etc. Ouais, ouais. Puis il dit, mais c'est pas comme ça qu'on marche comme journaliste, normalement. Mmh. Il dit, quand on marche comme journaliste, on regarde une situation qui a lieu, on fait du journaliste d'enquête, on pose des questions, on interviewe des gens des deux bords, et après, on laisse, surtout le plus important, on laisse nos auditeurs décider par eux-mêmes. Et lui, ce qu'il dénonce, ce monsieur-là qui s'appelle Yuri Berliner, qui est un réalisateur, il a travaillé là, donc, comme je te dis, pendant 25 ans, il dit maintenant, NPR est devenu un organisme de presse qui dit aux gens quoi penser. Puis il dit, moi, ça fait 25 ans que je travaille là. Mmh. Ça fait 25 ans qu'on ne dit pas aux gens quoi penser, mais maintenant, c'est devenu ça. Il donne un certain nombre d'exemples absolument hallucinants. Il dit que depuis quelques années, donc, les gens sont tellement obsédés par équité, diversité, inclusion à NPR qu'on a, alors qu'avant, c'était les gens travaillent à NPR, c'est comme un grand groupe. Il dit maintenant, chacun se définit selon son identité de genre, selon son identité de couleur de peau, etc., etc. Il dit ça donne... Il dit, c'est rempli de mini-groupes à l'intérieur de NPR. Il dit, il y a un groupe, c'est le Marginalized Genders and Intersex People of Color Mentorship Program. Donc, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est les genres marginalisés et les gens intersexes de couleur.
Mais ça, c'est un groupe...
Ça, c'est pointu, là.
Non, mais ce groupe-là...
Parmi les employés de NPR... Donc, ces gens-là se rassemblent à l'intérieur de NPR. Toi, tu ne peux pas en faire partie. Moi, je ne peux pas en faire partie.
Ils vont luncher ensemble.
Ils vont luncher ensemble, puis ils ont des organisations et tout ça. Et il y en a un autre, c'est NPR Noir, avec seulement les employés noirs de NPR. Il y en a un autre, c'est Southwest Asians and North Africans at NPR. Donc, les gens d'Afrique du Nord et du Sud-Est asiatique. Il y en a un autre, c'est Women, Gender Expansive and Transgender People in Technology Throughout Public Media. En tout cas, bref, c'est rempli. Donc, ce qu'il dit, c'est au lieu d'être une grande famille de gens qui travaillent à NPR, on devient des sous-groupes et tu peux pas faire, si tu fais pas partie de ce sous-groupe-là, puis c'est des sous-groupes en plus qui font pression sur la direction de NPR pour, avec une liste de vocabulaire, de mots qu'on doit utiliser, de mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Par exemple, moi, je trouve ça important parce que nous, on travaille dans les médias et on se fait dire que ben, le phénomène woke, c'est une invention des méchants chroniqueurs de Québécois. Ben, je m'excuse à NPR. À ce que je sache, Benoît Dutrisac, Richard Martineau, Joseph Facal ne travaillent pas à NPR. Donc, à NPR, ils ont un problème. Un des mots qu'on n'a plus le droit d'utiliser à NPR, selon ce monsieur-là, c'est le sexe biologique. On ne dit plus ça, sexe biologique. On dit parce que, par exemple, moi, quand je parle de phénomène transgenre, je parle des gens qui ont une transformation, donc une transition, et qui sont maintenant femmes ou qui sont maintenant hommes, et je vais faire référence à leur sexe biologique, leur sexe d'origine. Bon, mais c'est ce vocabulaire-là d'utiliser l'expression sexe biologique est banni à NPR. Tu ne peux pas utiliser ça parce qu'il y a le sous-comité des gens transgenres de NPR qui ont dit... Ben non, on veut pas que vous utilisiez ce truc-là.
Ça devient du militantisme.
Exactement. Merci, Benoît. Je t'adore. Je t'embrasse les pieds. non, mais parce que c'est exactement ça qu'il dit. Il dit nos journalistes ne sont plus des journalistes. C'est ce sont des militants. Ce sont des militants. Ils ont un agenda politique, un agenda idéologique, et ils se servent de NPR pour renforcer ça avec l'appui et la bénédiction de la direction.
Ça devient donc de la propagande.
Ça devient de la propagande. Alors, il donne deux exemples. Il dit il y a une sorte de consensus qui fait en sorte que les seules histoires qu'on doit couvrir à NPR, puis on a l'impression que c'est une parodie, mais c'est pas ça. Le gars, il a travaillé là 25 ans. Il dit racisme, transphobie, l'apocalypse climatique, Israël qui fait quelque chose de croche, et à quel point les républicains sont épouvantables. Il dit c'est comme une ligne d'assemblée dans une usine. Tu fais juste mettre les petits morceaux l'un après l'autre. C'est hallucinant.
C'est grave, ça.
Si j'ai le temps, juste 30 secondes. Il dit, à propos de la guerre, évidemment, entre Israël et Hamas, on sursouligne la souffrance des Palestiniens, alors qu'on minimise les atrocités du 7 octobre. On donne très, très, très peu de poids à l'explosion de haine antisémite à travers le monde. C'est ça que s'est rendu NPR, et lui le déplore.
Tu as lu ça où?
Sur le site de Barry Weiss qui s'appelle Free Press, mais je vais mettre le lien sur mes médias sociaux, les gens vont pouvoir le retrouver.
Sophie, merci. On se reparle demain. Merci à vous.